Bonjour, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Popol. J'ai une grande annonce à vous faire. Popol devient officiellement Popol Média. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce n'est plus uniquement un podcast et une newsletter, ça devient un vrai média avec un site internet où vous pourrez retrouver l'intégralité de nos contenus. Mais pour ce faire, on a besoin de vous, car oui, un média 100% indépendant et qui veut rester accessible à toutes et à tous à un coût. Nous avons lancé une campagne de crowdfunding sur le site KissKissBankBank. Il vous suffit d'aller sur le site KissKissBankBank et de taper Popol dans la barre de recherche et vous tomberez directement sur la page et de faire un petit don pour nous aider. L'objectif est d'atteindre 65 000 euros. Vous allez nous dire, mais c'est énorme. Oui, c'est énorme, mais c'est pas beaucoup à payer pour un média 100% indépendant et féministe. Merci beaucoup, on compte sur vous et sur votre soutien. Bon épisode. Popol Talks, le podcast politique qui donne la parole aux femmes engagées. Bonjour, bonjour, bienvenue sur ce nouvel épisode de Popol Talks. Ça faisait longtemps, ça faisait très très longtemps et je suis très heureuse de pouvoir vous retrouver aujourd'hui avec une invitée spéciale. Vous allez découvrir qui et vous n'allez pas être déçus. Je précise que nous enregistrons ce podcast en direct de la Gaîté Lyrique qui a très aimablement voulu nous prêter son magnifique studio d'enregistrement de podcast. Je tiens aussi à remercier Artifarty, Arte France, Make Sense, Singa et Actes Sud qui occupent actuellement la Gaîté Lyrique dans ce qu'ils appellent et elle appelle la fabrique de l'époque. Je vous invite à retrouver toute leur programmation sur leur site internet. C'est parti pour ce nouveau Popol Talk. Bonjour Irénée.
Bonjour Léa.
Comment vas-tu?
Ben moi ça va très bien et toi?
Eh ben écoute, je suis très très contente d'être là. C'est le premier Popol Talk que je fais dans un studio. Donc je suis très émue, je suis très heureuse que ce soit avec toi aussi d'ailleurs.
J'espère être à la hauteur alors.
Ah, j'en ai vraiment aucun doute. Pour les personnes qui te connaissent peut-être pas encore et qui découvriraient ce podcast et qui du coup auraient la chance de te découvrir grâce à ce podcast, comment tu te décrirais en quelques mots?
Alors déjà moi c'est Irénée et surtout pas Irène parce que c'est en conséquence. Et je suis militante féministe, je pense avant tout. Je suis aussi autrice de deux livres et accessoirement je suis aussi étudiante.
Effectivement, alors deux livres, on va les citer quand même, c'est important. Deux livres parus aux éditions Divergence, Hilaria et La terreur féministe. Oui oui, ayez peur, tremblez. Tu fais quoi comme étude si je peux me permettre?
J'ai fait des études d'histoire.
Super, bah, très très bien. Bah, bonne chance parce que c'est dur d'étudier parfois, non?
Oui, surtout en parallèle du travail, de l'écriture, du militantisme, tout ça.
Ouais, c'est clair. Irénée, dans ce podcast, ce qu'on aime bien faire, c'est parler de féminisme et aussi de politique. Et c'est d'ailleurs pour ça que tu es invitée, parce que tu as une vision très politique de l'engagement féministe. On a eu l'opportunité d'en parler à plusieurs reprises ensemble lorsqu'on a pu se croiser dans des événements militants. Comment tu définirais le féminisme?
Pour moi, le féminisme, c'est un mouvement de libération collective. Et j'insiste vraiment très fortement sur cet aspect collectif. Ça ne peut pas être une lutte individuelle, ce n'est pas un truc personnel, c'est vraiment un truc collectif qu'on fait ensemble, en mouvement. Et donc, un mouvement de libération des dominations. Donc, domination patriarcale, mais moi aussi j'élargirais ça parce que le patriarcat, il ne joue pas tout seul. Mmh. Et il s'allie avec d'autres mouvements comme notre système de domination, pardon, comme le racisme, le capitalisme et autres. Et donc, pour moi, le féminisme, c'est tout simplement un mouvement de libération des oppressions et aussi de l'exploitation que nous subissons en tant que femmes et dissidences.
Absolument. D'ailleurs, dans ton livre Hilaria, tu insistes sur l'importance de sortir du capitalisme, mais aussi du système politique tel qu'il est aujourd'hui, pour vraiment arriver à mener cette lutte révolutionnaire féministe. Est-ce que ça, tu peux développer un peu pour nous, s'il te plaît?
Oui, c'est vrai que le féminisme récemment, il est devenu très mainstream, il s'est popularisé. Ce n'est plus un gros mot comme il pouvait l'être il y a quelques années. Il y a aujourd'hui beaucoup de gens qui se disent féministes, même les plus capitalistes, même les plus blancs bourgeois de ce monde. Et pour moi, il est important d'insister que si nous sommes opprimés en tant que femmes et dissidents, c'est aussi non seulement pour notre genre, mais aussi pour notre classe sociale, pour notre appartenance ethnique, etc. Et qu'on ne peut pas juste lutter contre le patriarcat sans s'attaquer à d'autres systèmes de domination. On ne peut pas véhiculer un féminisme dont la volonté soit de rendre les femmes aptes à gouverner dans un système juste exécrable. On ne peut pas véhiculer un féminisme dont le but soit que les femmes soient chefs d'entreprise, des entreprises les plus polluantes, les plus discriminantes, qui exploitent des milliers de personnes, etc. Pour moi, le féminisme, c'est vraiment un mouvement qui vise à renverser le système de domination. Et cet aspect de renversement, c'est pour moi essentiel. Il n'y aura pas d'égalité, il n'y aura pas de libération si on n'est pas tous libres et tous au même point, quoi.
Ouais, ouais, tout à fait. Donc, on sent dans ton discours une pointe d'anarchisme.
Un petit peu.
Un petit peu, totalement assumé. Quel est ton rapport avec le mouvement anarchiste ?
Oui, donc moi, je me définis comme militante anarchiste, féministe libertaire, si tu préfères. C'est tout simplement l'idée qu'il ne peut pas y avoir de mouvement des femmes, de mouvement des femmes et dissidences, sans un mouvement qui s'attaque à toutes les formes de pouvoir, en fait. Je pense que je résumerai mon féminisme comme ça. En fait, je ne suis pas à la quête du pouvoir, je ne suis pas là pour donner du pouvoir aux femmes, mais je suis pour détruire tous les modèles de pouvoir, en fait. Moi, ça ne m'intéresse pas avoir le pouvoir de gouverner, le pouvoir d'avoir des millions d'euros, le pouvoir de pouvoir créer des entreprises gigantesques et dégueulasses. Moi, le but, c'est juste de détruire tout ça, de foutre en l'air tout ça, et pour justement en finir avec ça. Donc, c'est ça pour moi la définition du féminisme libertaire, du féminisme anarchiste.
Mmh. Est-ce que tu penses que les deux peuvent cohabiter à un moment donné ? Tu vois, il y a cette phase de transition. C'est aussi des questions sur lesquelles je réfléchis beaucoup en ce moment. Et je me dis, finalement, est-ce que ce qu'on pourrait opposer à cet aspect révolutionnaire et anarchiste du féminisme, qui serait une forme de réformisme en quelque sorte, est-ce que tu penses que il serait pas inintéressant de réfléchir à une forme d'entrisme avec des féministes qui typiquement pourraient être élus à l'Assemblée nationale, qui pourraient être éventuellement porter des discours et porter aussi cette volonté de renverser tout le système d'oppression qui est poussé par le capitalisme, etc. Mais qui passerait par les voies, dans un premier temps en tout cas, institutionnelles, classiques.
Alors, je pense que c'est une question un peu ambivalente et sur laquelle il y a beaucoup de débats, mais depuis, je pense, le début du mouvement féministe et le début du mouvement socialiste en général, on va dire, c'est cette question de est-ce qu'on peut aller vers la révolution en passant par des voies réformistes ? Et je ne peux pas donner la réponse parce que je pense que personne n'a vraiment tranché là-dessus. En tout cas, je pense que d'un côté, bah, oui, c'est important d'avoir des personnes, on va dire, progressistes dans les instances de pouvoir, dans l'Assemblée, dans les gouvernements. On voit bien que les conditions de vie des personnes opprimées sont un peu moins pires quand il y a des personnes progressistes au pouvoir. On l'a bien vu, par exemple, en Espagne, où il y a un gouvernement de gauche, pour l'instant, qu'il y a plusieurs lois, notamment concernant l'avortement, concernant les agressions sexuelles, aussi, concernant les personnes trans, etc., qui ont vu le jour, même si c'était très dur. Donc on voit bien que la situation s'améliore, mais pour autant, ce n'est pas totalement satisfaisant et ça ne le sera jamais, justement pour la simple et bonne raison que quand une personne rentre au gouvernement, autant féministe, antiraciste et anticapitaliste soit-elle, elle joue sur un terrain où il y a des règles qu'elle ne choisit pas, en fait. Et un terrain où il y a des lois, il y a une constitution qu'elle ne choisit pas et que c'est très difficile de changer. Et oui, on va dire que ça peut améliorer nos conditions d'existence, mais que ça ne sera jamais la voie pour aller vers la révolution, ça c'est sûr et certain.
Ouais, c'est clair. Je suis d'accord avec toi, notamment parce qu'on voit que le fait d'intégrer le pouvoir, il y a une certaine forme de compromission qui s'opère de la part des personnes qui intègrent le pouvoir. On le voit, hein, tu peux avoir une féministe militante qui décide, avec toute sa bonne volonté, d'aller renverser l'ordre établi en étant élue, etc. Mais effectivement, comme tu le dis, toutes les contraintes, qu'elles soient institutionnelles, mais aussi économiques, etc., même sociales, au demeurant, vont les pousser à affaiblir un peu leurs revendications, à affaiblir un peu leur ferveur militante. Et ça, c'est vrai que, c'est, en fait, le pouvoir pervertit peut-être un peu tout.
Mais déjà, faut se dire que pour être élu, il faut déjà en arriver là. Et pour en arriver là, il faut déjà faire des compromis avec les différents électeurs qui ne sont pas tous de la même classe sociale ni du même camp politique. Et ça, il faut le rappeler. Et oui, du coup, c'est compliqué, quoi.
Il y a une phrase dans ton livre, je cite Hilaria, page 134, précisément. Tu dis « L'histoire du féminisme qui nous est rapportée est bien souvent celle d'un féminisme qui n'a jamais vraiment posé de problème à l'élite au pouvoir. »
Oui, je pense que, en fait, en règle générale, quand il y a des discours actuels qui font référence à des événements historiques, on a tendance soit à édulcorer, à ôter à ces événements ou à ces personnalités leur aspect révolutionnaire et leurs revendications radicales, soit à sauter des passages, on va dire, ou à effacer certaines personnes et certains mouvements.
Tu as des exemples concrets peut-être qui pourraient illustrer un peu
Moi par exemple, quelque chose qui m'avait beaucoup fait rire, c'est une fois où Marlène Schiappa, elle avait partagé une citation de Louise Michel. Louise Michel, quand même, communarde, figure révolutionnaire, anarchiste, super radicale, et qu'une figure aujourd'hui de droite comme Marlène Schiappa partage ça en insinuant qu'elle serait de son côté, c'est quand même très drôle, à mon avis.
Ouais.
Après, je pense qu'un autre exemple très marquant, c'est tout ce qui a à voir avec le mouvement de suffragettes. Mmh. Donc, ces militantes britanniques qui, fin 19e, début 20e, se sont battues pour acquérir le droit de vote, et pas que, parce que quand même, il faut le dire, il n'y avait pas que ça. Qu'on voit aujourd'hui des antiféministes louer leur combat comme si c'était les vrais féministes, le vrai combat, la bonne manière de faire, alors que, rappelons que c'était quand même des nanas qui posaient des bombes, qui ont provoqué des incendies, qui ont fait des cours d'arts martiaux pour frapper sur les flics. Enfin, c'était quand même pas des paillettes et des sourires tout le temps, c'était un peu plutôt le contraire. Mais on va dire que pour dévaloriser les féministes actuelles, on va tendance à dire qu'avant c'était mieux, alors qu'avant c'était quand même assez marrant, ça avait l'air.
Ouais, c'est clair. Alors c'est vrai que dans la perception qu'on a du combat féministe, t'as raison, il y a toute cette partie-là de la violence qui est totalement invisibilisée et qui parfois même n'est pas assumée par certaines figures féministes. Alors je sais pas si toi tu partages ma vision des choses, mais tu vois, par exemple, moi, on m'a reproché de dire que je voulais une société dans laquelle la politique ne serait plus violente. Parce que pour moi, la politique aujourd'hui, elle est violente parce qu'elle est, elle est codée, elle est exercée, le pouvoir est exercé à travers justement ce prisme qui est la domination, l'oppression, l'exploitation. Et idéalement, si on arrive à sortir de ça, ça voudrait dire qu'on arrive à se défaire de ces codes de domination, d'exploitation et d'oppression. Donc moi, je rêve d'une politique qui ne soit pas violente. En revanche, pour y arriver, il faut assumer une part de violence, effectivement, puisqu'on voit bien qu'on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Tu parlais du mouvement des suffragettes à très juste titre, en rappelant qu'effectivement, il y avait des actions très, très, très violentes. Jusqu'à quel niveau, d'après toi, il faut assumer cette part de violence? Et jusqu'où on peut la porter? Dernière question, excuse-moi, je complète la question, désolée, mais est-ce que tu penses que c'est quelque chose que le mouvement féministe aujourd'hui, tel qu'il est encore aujourd'hui en France, est capable d'entendre, qu'il faut de la violence?
Je ne saurais pas dire jusqu'où il faut y aller, et je pense que ce serait pas non plus à moi de déterminer un cadre et des limites, ou au contraire d'inciter les gens à faire quoi que ce soit. Mais je pense que, au contraire, ce qu'il faut rappeler, c'est comme tu dis, que la politique, elle est violente. Déjà parce que pour accéder à la politique, c'est pas n'importe qui accède. C'est surtout des hommes en grande majorité, des hommes blancs et des hommes d'une certaine classe sociale. Et ça aussi, il faut le rappeler, c'est quand même très rare qu'il y ait des personnes racisées, des femmes dissidentes, c'est surtout des femmes des classes populaires qui accèdent à des postes de pouvoir importants, avec une vraie responsabilité et une vraie voix qui soit écoutée. Et ça, déjà, ça constitue une forme de violence parce que ça exclut toute une partie de la population, en fait, la grande majorité des instances décisionnaires de ce pays. Ensuite, je pense que la politique est violente parce que pour s'exercer, pour se légitimer, pour faire appliquer sa loi, elle utilise quand même une institution violente et armée comme est la police. On l'a beaucoup vu récemment avec toute la bataille contre la réforme des retraites. On a eu une population française à quasi-majorité contre cette réforme, qu'il a exprimée à travers les sondages, qu'il a exprimée à travers une grève générale qui a duré quand même des mois. Une grève historique qui a porté des milliers de personnes, des millions en fait, dans la rue. Et malgré tout ça, le gouvernement a décidé d'ignorer et au contraire a décidé d'utiliser la répression violente, la répression judiciaire, qui est aussi une forme de violence, etc. Donc ça, c'est violent. Je pense que la politique est aussi violente dans notre exemple, comme typiquement en Espagne, la ministre de l'Égalité, Irene Montero, qui est continuellement attaquée et diffamée, que ce soit en pleine assemblée, que ce soit dans les médias, sur Internet, etc., de manière très, très violente. Ça fait un harcèlement et une violence politique qui est absolument massif et qui montre bien comment, en fait, quand certaines femmes qui ne sont pas particulièrement de classe bourgeoise arrivent à accéder à des postes de pouvoir, en fait, on leur fait payer cher. Donc, je pense qu'il est important, avant de juger la violence de certains mouvements politiques, et je mets entre guillemets parce qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas de mouvement politique en France militant qui soit violent. Il n'y a pas des mouvements écolos qui ont mis des bombes, qui ont provoqué des incendies massifs, etc. Ça n'existe pas à l'heure actuelle.
Contrairement à ce qu'essaie de nous faire croire le gouvernement.
Voilà. Je pense que l'étiquette de violente et de terroriste s'est très vite appliquée à des mouvements juste de justice sociale, alors qu'il n'y a pas grand-chose qui est fait. Je pense notamment à ce qui s'est passé avec les soulèvements de la terre et les manifestations contre les méga-vaccines. On rappelle que c'est juste une manifestation pour protéger basiquement l'accès à l'eau du grand capital, pour le dire en des termes très simples, et qui a été réprimée de manière brutale. On rappelle qu'il y a quand même plusieurs personnes qui ont été au coma, des dizaines de personnes qui ont été très gravement blessées, et par un appareil répressif de l'État qui était totalement démesuré par rapport à ce que les militants et les militantes portaient en eux et par rapport à leurs gestes à eux et elles. Donc ça, c'est important de le rappeler que pour l'instant, il n'y a aucun mouvement militant qui soit à la hauteur de la violence de l'État et du gouvernement et de la politique actuelle. Donc je ne sais pas jusqu'où il faut aller, mais je pense que c'est important de rappeler que au minimum chose qu'on fasse pour contester le pouvoir, pour contester les lois, on est réprimé, violenté de manière brutale et que en fait, quoi qu'on fasse, ça reste de l'ordre de l'autodéfense.
Oui, c'est souvent comme ça, en fait. On organise notre défense face à un appareil répressif. Ça, c'est clair, c'est très bien de le rappeler. Mais est-ce que tu penses que le mouvement féministe est aujourd'hui capable d'entendre ça et d'assumer une certaine part de violence et de se dire oui, alors effectivement, on a pour objectif de déconstruire toute cette domination qui peut effectivement s'affirmer par de la violence, notamment institutionnelle. Mais pour y arriver, il va falloir quand même qu'on soit nous-mêmes un peu violentes.
Alors, j'ai envie de dire que dans le milieu militant dans lequel moi je me trouve, oui, c'est une parole qui s'entend et c'est une parole qui est juste totalement évidente. Dans le mouvement féministe général en France, absolument pas. Non, le mouvement féministe n'est absolument pas prêt pour ça. D'autant plus qu'on parle d'un mouvement où les revendications principales s'adressent quand même à l'État et à la police. On parle d'un mouvement qui, encore aujourd'hui, en 2023, considère que la solution la plus efficace pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles, c'est de demander plus d'aide à l'État, plus de police, plus de formation de police, etc., comme s'il y avait plusieurs polices. comme si la police à laquelle on va demander de l'aide, c'est pas la même qui a tué un gamin de 17 ans en Inter, par exemple, pour refus d'obtempérer. Comme si cette police, qu'on prétend qu'elle nous protège du patriarcat, ce n'était pas la même qui fracassait la gueule à des militants et des militantes dans les manifestations, que ce soit à Sainte-Soline, mais que ce soit aussi dans les manifestations féministes, tout simplement, dans les manifestations contre la réforme des retraites. Voilà, en fait, des polices, il n'y en a pas 10 000, c'est toujours la même. Et je pense que dans le mouvement féministe français en général, il y a un gros problème de réflexion de stratégie et de réflexion de symbolique en général. Si on entend le mouvement féministe comme un mouvement de libération et d'émancipation, ce n'est pas en se plaçant sous la tutelle de l'État, encore et toujours, qu'on va se libérer. En fait, je pense qu'il est important de réfléchir en termes de mouvement autonome, en fait, de mouvement où on se libère, où on n'a pas besoin que quelqu'un nous libère, et surtout un mouvement qui soit un peu cohérent avec ce qu'on revendique. On ne peut pas revendiquer la fin du patriarcat en faisant appel à une institution les plus patriarcales et virilistes qui soient dans ce pays.
C'est très bien dit. Effectivement, il y a aussi ce mot que tu as prononcé qui me semble être très important et qui manque fondamentalement au mouvement féministe, comme tu viens de le dire, c'est le mot stratégie. C'est vrai qu'on a le sentiment qu'en France, en tout cas, et c'est peut-être différent ailleurs, et tu pourras nous le dire peut-être aussi avec ton expérience internationale et ce que tu peux constater ailleurs. C'est vrai que moi, j'ai le sentiment que le mouvement féministe manque vraiment de stratégie politique en France. Après, on peut aussi comprendre qu'il y ait, étant donné les circonstances et étant donné le milieu dans lequel on évolue et dans la société dans laquelle on vit, qu'il y ait effectivement cette tentative de se dire on va améliorer les institutions, on va faire en sorte que déjà notre parole soit mieux entendue, on va faire en sorte que nos violences soient réparées, etc. etc. Mais il est effectivement important de faire un pas de côté, même de prendre un peu de recul pour réfléchir à quelque chose de plus global. Moi, j'ai parfois le sentiment, malheureusement, que on a une définition du féminisme aujourd'hui, en tout cas en France, qui insiste plus sur l'émancipation individuelle que vraiment sur l'émancipation collective, comme tu le disais en introduction. Et comment on fait, nous, à notre niveau, typiquement, pour essayer de sensibiliser même nos proches, nos proches avec lesquels on peut militer, etc., dans d'autres circonstances, pour arriver à les convaincre de sortir de cette logique-là pour aller vraiment vers un mouvement politique, stratégique d'émancipation collective.
Mais je pense que déjà, en fait, c'est le manque de la stratégie politique dans le féminisme, c'est aussi parce qu'on manque de perspectives concrètes de qu'est-ce qu'on veut. En fait, on a tendance à résumer...
Les objectifs, ouais.
Oui, les objectifs politiques concrètes.
Absolument.
On a tendance à résumer le féminisme par « on veut l'égalité, on veut la fin du patriarcat », mais concrètement, ça veut dire quoi? Parce que moi, personnellement, je pense qu'entre autres, il faut la fin de l'exploitation de notre travail, que ce soit l'exploitation de notre travail salarial ou la fin de l'exploitation de notre travail reproductif, c'est-à-dire toutes ces tâches que nous faisons qui rapportent un capital au capitalisme en général, comme les tâches domestiques, les tâches du soin, la garde des enfants, la garde des personnes malades, des personnes âgées, etc. Toutes ces choses qui, en fait, sont un travail qui demande du temps, qui demande de l'implication et qui sont essentielles, en fait, à toute la structure capitaliste et salariale mise en place et pour lesquelles non seulement on n'est pas rémunéré, mais on n'est pas non plus reconnu en tant que travailleuse pour ça. Donc, une des aspects, c'est celui-là, la fin de notre exploitation. Il faut aussi la fin de tout ce qui est les discriminations, la fin des violences que nous subissons, la fin de, on va dire, cette silenciation, la manière dont, en fait, on n'a pas de voix, ou en tout cas, on n'est pas écouté, on ne nous encourage pas à l'utiliser. Quand on l'utilise, on est méprisé, on est invisibilisé, on nous fait taire, en fait, au plus vite possible. En règle générale, je pense que c'est aussi un mouvement pour qu'on reprenne, en fait, un peu le pas sur nos propres existences de manière collective, typiquement pour décider qu'est-ce qu'on veut, comment on le veut, dans quelle modalité, etc. Et je pense que vraiment le mouvement féministe devrait se poser, c'est pas qu'il y a des gens qui le font pas, mais de manière plus générale, pour décider qu'est-ce qu'on veut. Et en fait, une fois qu'on a décidé ça, comment on fait pour en arriver là? Quelles sont les stratégies politiques, sociales les plus adaptées? Quel mode d'action? Et je parle au pluriel parce que je pense qu'en fait, il y a différentes manières d'arriver à des mêmes buts et que souvent, ça peut être complémentaire et c'est tant mieux. Mais voilà, j'ai l'impression que là, à part certains pans assez spécifiques du militantisme, en règle générale, le féminisme juste se contente de demander la même chose depuis 50 ans, alors que ce n'est pas efficace et qu'en termes de juste logique, ça ne va nulle part.
Ouais, c'est clair. Moi, j'ai aussi le sentiment qu'on a parfois cette tendance à faire une association qui n'est pas toujours... qui n'est pas toujours juste, à mon sens, entre féminisme et droit des femmes.
Dans quel sens ?
Est-ce que le féminisme... Parce que j'ai l'impression que parfois, on a juste tendance à tu vois, se focaliser sur un certain nombre de droits. Mmh. Non pas que ce soit pas important, hein, loin de là. Bien sûr qu'il faut qu'on puisse avorter librement. Bien sûr qu'il faut qu'on puisse faire tout un tas de choses librement et qu'il faut que ce soit protégé juridiquement, etc. Mais j'ai souvent le sentiment qu'un certain nombre, dans certains milieux militants en tout cas, on s'arrête qu'à ça, en fait. C'est-à-dire on va revendiquer des droits pour les femmes, point. Et que le féminisme, en fait, c'est cette définition-là. Alors que moi, je partage cette définition du féminisme qui va beaucoup plus loin, qui est pour moi un projet politique qui vise effectivement à une société où il n'y aura plus de domination, d'exploitation et d'oppression. Est-ce qu'il ne s'agirait pas peut-être juste d'arriver à le définir collectivement pour effectivement se sortir un peu de juste cette conquête des droits de manière un peu sporadique et en plus mal faite pour la majeure partie du temps, même s'il y a quand même, bien entendu, des choses qui sont organisées dans le milieu militant et qui fonctionnent, et heureusement d'ailleurs, mais qui, finalement, nous enferme un peu dans ce féminisme un peu néolibéral, que tu dénonces d'ailleurs très très bien dans ton livre.
Oui, en fait, tout ce qui concerne le droit et les lois, comme tu dis.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
D'ici bien, pour moi, c'est un peu de l'ordre de l'anecdotique. On est dans un pays ici où, techniquement, être payé de manière inégale pour le même travail, c'est interdit. Où les agressions sexuelles et les viols sont interdits. Mais il y en a quand même. En fait, ce n'est pas la loi et les droits, malheureusement, qui nous... qui vont nous donner en fait concrètement les conditions de vie dont on a besoin et qu'on exige et qu'on mérite tout simplement. La loi techniquement elle dit qu'on est censé être tous égaux, que ce soit sans discrimination raciste, sexiste, LGBTophobe, etc. Et pourtant, dans la réalité, ce n'est pas du tout le cas. Il y a encore des agressions, il y a encore des inégalités, il y a encore des inégalités économiques, etc. Et même, justement, tu évoquais l'exemple de l'avortement, du fait qu'on doit avoir le droit d'avorter librement, etc. Alors oui, je suis d'accord, mais en même temps, je pense qu'il faut aussi se poser des questions de notre point de vue. Par exemple, avant qu'il y ait la loi Veil qui nous autorise à avorter en France de manière libre, etc., en fait, il y avait plein de groupes de femmes en France qui s'organisaient pour avorter de manière clandestine et qui, du coup, avaient développé des savoirs, s'étaient auto-formées pour pratiquer des avortements partout parce qu'elles n'avaient pas le choix. Qu'elle devait le faire par survie, mais aussi par revendication politique, qui du coup avortait de manière autonome, qui du coup s'auto-formait, se formait entre elles, et qui du coup le faisait de manière collective, en développant des rencontres, en développant un mouvement en fait. Et alors, certes, l'avortement est aujourd'hui autorisé en France, et ce qui est incroyable et super important, et il faut qu'on en reste là. Mais aujourd'hui, est-ce que toi, tu saurais te faire avorter ?
Et c'est bien ça aussi, c'est la réalité, effectivement, et tu as raison, c'est les droits sur le papier et la réalité de l'accès à ces droits.
Oui, en fait, plus que l'accès, c'est aussi une perte d'autonomie. C'est aussi une perte d'autonomie de... Il y a 50 ans, il y avait beaucoup de femmes qui savaient pratiquer des avortements. Là, aujourd'hui, on nous interdit l'avortement, qui sait le faire ? Aujourd'hui, on avorte dans des cliniques, dans des hôpitaux. Encore une fois, c'est très important, on ne veut pas perdre le droit
bien
à avorter.
Non, bien sûr, c'est pas le propos.
Mais je pense que c'est aussi important de réaliser qu'est-ce qu'on a perdu en termes de mouvement, en fait. Est-ce que, justement... la récupération de l'État de ce droit n'a pas aussi cassé un mouvement, et n'a pas aussi cassé en autonomie du mouvement féministe, et n'a pas aussi cassé quelque chose qui aurait peut-être pu aller plus loin. Et je pense que dans un monde, dans un contexte politique français, mais aussi international, où les politiques et les discours réactionnaires ne font commenter, je pense qu'il est aussi important de commencer à se poser des questions de qu'est-ce qu'on fait si ça arrive ici, par exemple. Quand est-ce qu'on commence à se former ? Je parle de l'avortement, mais je parle en général sur d'autres points.
Ouais, t'as tout à fait raison. C'est vrai que c'est quelque chose que j'avais pas du tout à l'esprit, et c'est d'autant plus important et intéressant que le Sénat a voté dans ces termes, en fait, la protection, la constitutionnalisation du droit à l'IVG le 1er février dernier, en disant « le législateur détermine les conditions d'accès ». Donc ça veut dire que... si le législateur, dans quelques années, ce qui n'est vraiment pas exclu, est un législateur qui n'a plus envie de garantir l'accès effectif à l'avortement, il peut mettre en place des méthodes pour que ce droit ne soit plus totalement effectif.
Ouais, c'est justement dans le film Annie Colère qui justement retrace des militantes d'un groupe du MLAC qui pratique des avortements clandestins juste avant la loi. Et justement, à la fin, c'est quand la loi elle est proclamée, c'est un peu une victoire, mais un peu une victoire amère. En fait, on voit les personnages qui sont en mode « Ok, on a le droit, mais en fait, là, on va faire comment ?» Est-ce qu'il y aura encore des femmes qui vont savoir avorter ? On va perdre en savoir. Et puis surtout, est-ce qu'il y aura encore des avortements pratiqués dans la joie, entre guillemets, la joie qu'on peut avoir dans ce moment un peu tragique parfois et difficile, mais la joie quand même. Et on voit les personnages qui se demandent est-ce qu'il y aura encore des personnes qui vont tenir la main à ces femmes qui avortent ? Est-ce qu'ils vont leur chanter des chansons ? Et en fait, ça a l'air un peu anecdotique dit comme ça, mais c'est important. Et je trouve que genre, ce film, en tout cas ces 5 dernières minutes, moi, m'ont beaucoup parlé dans la mesure où ça montre un peu cette ambivalence de la conquête des droits, oui, mais est-ce que c'est suffisant ? Et surtout, comment ça s'inscrit dans un équilibre ? Qu'est-ce que ça nous donne ? Qu'est-ce que ça nous enlève ?
Tout à fait. Et effectivement, donc, on rappelle Annie Colère, un film de Blandine Lenoir qui est assez fabuleux, effectivement, sur l'histoire du MLAC qui revient sur comment le MLAC s'organisait pour pratiquer ses avortements, et qui revient effectivement à ce moment, à cette décisive politique où l'avortement est finalement autorisé en France. Mais aussi un aspect que j'avais trouvé génial aussi dans le film, c'est qu'on nous montre que ça ne s'est pas évidemment fait du jour au lendemain, ça on le savait, mais qu'il y avait une véritable récupération politique de la part du gouvernement et de la part de Simone Veil dans une certaine mesure. Parce que l'idée, c'était vraiment d'étouffer un mouvement contestataire et un mouvement social en autorisant l'avortement, qui en plus, dans les faits, techniquement, je veux dire en 75, je connais quelqu'un qui a essayé d'avorter, ça a été très dur, légalement.
Oui, justement, ça me permet de parler aussi de ça, du fait que je trouve qu'en France, la lutte pour l'avortement, en tout cas la conquête de ce droit, est absolument personnifiée en la figure de Simone Veil. Et en fait, pour moi, c'est... Enfin, déjà, moi, j'en ai ras le cul de ça. Genre, oui, c'est Simone Veil qui a porté, en termes politiques et institutionnels, le combat pour ce droit. Et c'est important. Là, on est d'accord, il n'y a pas de souci. Mais je trouve que la manière dont elle est surpersonnifiée, en fait, ça invisibilise totalement un mouvement social, collectif, un mouvement féministe. En fait, il y a des milliers de femmes qui se sont engagées pour ce combat-là, dans la rue, en organisant justement des campagnes de sensibilisation, en organisant ces groupes-là qui étaient un peu partout en France. Et en fait, c'est un peu comme d'habitude, en fait, il y a des milliers de personnes qui sont engagées, des milliers de femmes qui sont mortes à cause de ça. et qui sont complètement invisibilisés, comme si juste Simone Veil est arrivé un jour et hop hop hop, on a le droit d'avorter, ça s'est pas du tout passé comme ça. Et ça rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure que j'ai écrit sur mon livre, où on nous raconte juste une partie de l'histoire. La partie qui est un peu sage et convenable, on va dire. Et on essaye de nous faire oublier qu'en fait, si l'avortement est aujourd'hui légal en France, c'est parce qu'il y a des nanas qui ont tout donné sans être forcément de classe bourgeoise, sans être forcément privilégiées, au contraire en prenant beaucoup de risques. Et je pense que c'est important de les remémorer.
Oui, absolument. Ça, c'est aussi quelque chose que je trouve très fort dans ton positionnement et dans ton engagement féministe, c'est le fait que tu rappelles toujours que le féminisme, c'est quelque chose de... C'est un féminisme de terrain, toi, qui t'anime. C'est-à-dire que tu n'as pas appris le féminisme dans les livres de Simone de Beauvoir ou autre, mais tu as appris le féminisme parce que les conditions dans lesquelles tu as évolué, les femmes aussi de ton entourage, avaient une existence qui devait être éminemment féministe pour survivre, ne serait-ce que ça. Et ça, je trouve ça très, très important. Et il y a aussi... la question que moi je me pose très régulièrement, c'est que bon, bah, là on est en train de discuter, on parle de féminisme, de théorie, on parle d'une telle, d'un tel, etc. C'est bien, c'est important, il faut effectivement qu'on puisse avoir ces discussions, réfléchir à la stratégie, à la théorie, etc. Mais comment on fait aujourd'hui pour ramener en fait ces femmes qui ont besoin concrètement, celles qui ont le plus besoin du féminisme aujourd'hui, qui ne sont effectivement pas ces bourgeoises blanches, etc., qui profitent du système et qui font du féminisme d'émancipation individuelle, comment on fait aujourd'hui pour que notre féminisme à nous, comment on le développe pour qu'il réponde vraiment aux besoins de ces femmes qui en ont le plus besoin?
Alors déjà, je pense que les femmes qui ont le plus besoin d'un féminisme révolutionnaire, elles n'ont besoin de personne pour le développer. Je pense qu'elles le font déjà très bien, elles toutes seules. Je pense qu'il y a déjà des collectifs de quartier, etc., qui font du féminisme à leur manière et comme elles en ont besoin et envie. Mais je pense que genre, oui, c'est important de insister sur le fait que le féminisme, ce n'est pas une question de lire des livres et de la théorie. Alors certes, c'est important, mais moi, personnellement, j'ai lu des livres théoriques féministes assez tard.
Ouais,
je
pense moi aussi.
Je pense que le premier livre que j'ai lu vraiment on va dire théorique, c'était Une chambre à soi de Virginia Woolf. En plus, j'ai lu la version de Marie Desrossais qui s'appelle désormais Un lieu à soi. Et c'était en vrai il y a 6 ans, c'est pas si longtemps que ça. Et moi j'étais toujours féministe, j'ai toujours été la féministe un peu relou de service. Mais j'ai pas été féministe parce que j'ai lu tel livre ou parce que j'ai écouté tel podcast ou que sais-je. Moi d'ailleurs je viens d'un milieu où ma famille n'a pas fait d'études, milieu assez précaire, enfin pas du tout un milieu favorisé, ni économiquement, ni... on va dire en termes de capital culturel, ce qui peut arriver parfois, ce n'est pas du tout mon cas. Moi, j'étais féministe parce que je n'avais pas le choix, en fait. Parce que quand j'étais petite, il y a eu un féminicide et un infanticide dans mon entourage, et forcément, ça te pose des questions. En fait, tu te rends compte que très vite, que ce n'est pas juste chez les autres, et qu'en fait, il y a un vrai système mis en place qui, littéralement, nous tue. J'aime pas trop utiliser ces termes un peu alarmistes, mais c'est quand même une réalité. Je suis féministe parce que j'étais petite pendant la crise de 2008 et 2012 et que j'ai vu les femmes de ma famille devoir faire la queue pour avoir à manger. Et ça aussi, c'est du patriarcat, en fait. La manière dont les femmes sont davantage précarisées, plus facilement précarisées que les hommes, parfois pour des questions d'inégalité et de discrimination sexiste, etc. Donc je suis aussi féministe pour ça, en fait. J'étais aussi assez jeune quand l'avortement a été menacé dans mon pays et qu'on a voulu limiter notre accès à l'avortement et à la libre disposition de notre corps. Donc je suis aussi féministe pour ça. Et donc je ne suis pas féministe parce que j'étais à l'université et parce que j'ai lu Simone de Beauvoir. D'ailleurs, je n'ai jamais fini le deuxième sexe. Mais je suis féministe juste parce que c'est quelque chose qui vient au trip et que c'est quelque chose qui, en fait, a toujours impacté mon quotidien en termes dont on n'a pas souvent l'habitude d'en parler, en termes économiques, etc. Je pense que c'est important de développer un féminisme de terrain qui soit accessible, donc de réfléchir en termes d'accès, de qu'est-ce qu'on fait comme modalité d'action, comme modalité de réunion, dans quels lieux, dans quels horaires, Typiquement, par exemple, pour les darons, comment on fait pour que ce soit accessible? Ce n'est pas les darons qui prennent charge des enfants, ça arrive très rarement. Donc, quels horaires sont les plus convenables? Est-ce qu'on peut...
Surtout pour celles qui sont en situation de monoparentalité.
Oui, totalement. Je pense, par exemple, au fait que dans... 3 semaines, il y a les nouvelles rencontres de la coordination féministe nationale, donc qui est une coordination qui réunit une centaine de collectifs, associations, assemblées féministes dans tout le territoire, qui a déjà fait plusieurs rencontres, notamment à Rennes ou à Grenoble l'année dernière, qui là va se réunir en juillet à Mont-de-Marsan. Et donc avec tout un programme d'ateliers, de plénières, de rencontres, de discussions politiques en tout genre, mais aussi de moments un peu fun et off, parce qu'on a aussi le droit de s'amuser. Et justement, cette année, ça a beaucoup été réfléchi en termes d'accueil des enfants. Il y avait déjà un accueil des enfants l'année dernière, il me semble, mais cette année, il y a aussi des activités pour les enfants, pour justement... pas se limiter uniquement à les garder, mais aussi leur proposer des activités adaptées à leur âge qui leur permettent aussi de développer des pensées ou juste des curiosités, etc. Et donc, je pense que c'est des choses qui sont très importantes et qui ne sont pas pensées dans toutes les organisations politiques et qui devraient être plus développées. Donc, ce genre de choses, par exemple, ça permet aussi. Parce que souvent, c'est plus accessible d'être dans des mouvements féministes quand on n'a pas des responsabilités de ce genre, etc. Donc, pour moi, ça commence là aussi.
Ouais, c'est clair. Quelle serait ta définition de l'engagement? C'est quoi ton engagement, toi, au quotidien?
Moi, je pense que vraiment, ma définition de l'engagement première, c'est le collectif. Pour moi, c'est, en tout cas dans ma vision à moi, mais on peut ne pas être d'accord avec d'autres personnes, c'est une question de collectif, c'est pas une question individuelle. Typiquement moi dans mon cas j'ai une plateforme sur Instagram, je suis très visible, j'écris des livres, donc je suis quand même présente sur l'espace public en mon nom propre individuel, mais moi je considère pas que ça c'est du militantisme. Moi je considère pas que je milite sur les réseaux sociaux, tout simplement parce que sur les réseaux sociaux je suis moi, Irénée, je partage des idées ou surtout, je appelle à aller à telle manifestation, à telle rencontre, à tel truc. Mais je ne considère pas que ça soit du militantisme à proprement parler, dans la mesure où, pour moi, mon engagement implique le fait de construire des projets de manière collective, de construire un mouvement, de construire des pensées en collectif, de construire des revendications, d'organiser des rencontres, d'organiser des manifestations, d'organiser des actions, etc. Et des choses que, moi dans mon cas en tout cas, je le fais de manière plutôt anonyme. Quand je suis dans un collectif et quand je construis ou organise des choses dans des cadres collectifs, je n'ai pas besoin de dire c'est moi, Irénée, qui ai écrit cette tribune, c'est moi qui ai organisé ça, c'est moi qui ai déposé ça en préfecture, parce qu'on s'en fout en fait, parce qu'on est dans le collectif et qu'on est en train de construire des choses ensemble, en mouvement, dans le long terme, justement pour maintenir le mouvement en mouvement. C'est quelque chose qui m'avait dit une camarade argentine il y a quelques années, qui disait qu'en fait le mouvement, il faut le maintenir en mouvement. Et c'est quelque chose qui, moi, m'a beaucoup marqué et que j'ai toujours en tête, le fait de, peu importe ce qu'on fait, il ne faut juste jamais que ça arrête, il faut qu'on empêche que ça s'arrête. Et donc, oui, je pense que pour résumer, je dirais vraiment, pour moi, c'est le collectif.
Ouais, c'est marrant ce que tu dis, le fait de tenir le mouvement en mouvement, c'est prendre soin, en fait, du mouvement, de prendre soin des autres dans un collectif. Il y a Juliette Rousseau, dans l'introduction de Joie militante, elle a fait la traduction de Joie militante, qui parle de ça, justement, et qui dit que c'est des choses qui sont assez peu valorisées dans les orgas, en tout cas en mixité, parce que souvent, c'est des choses qui reviennent aux femmes, la majeure partie du temps, et qu'on valorise assez peu, ce fait de prendre soin du mouvement.
Oui, il faut prendre soin, des personnes qui s'engagent et pour qui, en fait, ça peut devenir très vite épuisant mentalement et physiquement. Je pense, par exemple, là, on a eu un mouvement historique, comme on disait tout à l'heure, sur le mouvement des retraites. Pendant, 5 mois, il y a des personnes qui sont engagées corps et âme dans ce mouvement, en se mettant en grève ou en soutenant les grévistes, en allant au piquet de grève, en allant aux manifestations, aux différentes actions, etc., en diffusant par différents moyens l'idée et l'envie de s'engager. Et c'est quelque chose qui, je pense, a épuisé un peu tout le monde. Et J'ai envie de dire, c'est normal que le mouvement soit un peu essoufflé au bout de 5 mois, notamment en vue de toute la répression politique, policière, judiciaire qu'il y a eu. Mais je pense qu'il faut faire en sorte de prendre soin de nous et des autres, de faire en sorte que tout le monde puisse aussi un peu se reposer, mais sans pour autant laisser tomber les choses et dire qu'en fait, faut qu'on continue, peut-être par d'autres moyens, peut-être différemment, mais il ne faut pas qu'on lâche parce que si on laisse tomber ça, en fait, ça va de la porte ouverte pour tout.
Ouais. Il faut résister, ouais.
Et dans le mouvement féministe, c'est un peu pareil. Il faut continuer, malgré que ce soit épuisant, malgré que on a l'impression qu'on ne gagne pas grand-chose. Mais il faut aussi accepter ça. Le militantisme, c'est très ingrat.
Ouais, c'est clair.
Il n'y a pas beaucoup de victoires, il y a beaucoup de défaites, il y a de nouvelles attaques qui se succèdent l'une après les autres. C'est beaucoup de mépris, c'est devoir s'expliquer tout le temps, c'est ingrat, il ne faut pas devenir féministe si on veut avoir une valorisation.
Non, ça c'est vrai. Il y a un autre aspect aussi qui me vient à l'esprit en parlant du militantisme et notamment dans les orgas féministes. C'est, en tout cas moi, c'est les choses que j'ai pu rencontrer dans une orga spécifique que je ne citerai pas, mais c'est que j'ai eu le sentiment que malgré toute notre bonne volonté, malgré toute notre déconstruction par rapport aux enjeux de domination et de pouvoir, il y avait quand même parfois des lieux où... En fait, on n'avait pas, on n'était pas allé jusqu'au bout de cette déconstruction de notre rapport au pouvoir et qu'on se retrouvait dans des instances, dans des enceintes, dans des orgas ou autres, où ces rapports de domination étaient parfois reproduits. Et c'est très violent et très difficile à anticiper. Moi, je n'avais pas anticipé typiquement en me disant qu'en allant dans une orga féministe, je pourrais éventuellement me retrouver dans un environnement où ces enjeux de domination et de pouvoir allaient être aussi présents. Est-ce que ça, c'est des choses qu'on peut prévenir? Et si oui, comment?
Je pense qu'on peut les prévenir difficilement. Et je pense que ce n'est pas quelque chose qui s'arrête aux orgas féministes. Je pense que dans...
Non, bien sûr. Ouais.
Oui, je pense que dans tous les milieux militants, que ce soit des organisations... syndicales, associatives...
Les partis politiques...
Oui, les partis...
Surtout.
Et voilà, que ce soit des enjeux plus anticapitalistes, féministes, antiracistes ou autres, je pense qu'il y a toujours des scènes de domination qui se reproduisent, je pense malgré nous, et parfois de manière inconsciente.
Ouais,
je ne sais pas comment on pourrait les prévenir, parce que malheureusement, ça continue à se reproduire. Mais je pense qu'un aspect clé, c'est quand même reconnaître que c'est là et que ça existe. Mmh. Et être alerte et être ouverte à les critiques, aux remises en question, que ce soit de manière des auto-remises en question ou des remises en question par autrui. Je pense que c'est essentiel. Je pense que quelque chose en fait, de primordial, c'est d'essayer de laisser son ego de côté. D'essayer de se dire qu'en fait, on est là pour se battre contre des systèmes de domination dans lesquels on baigne depuis qu'on est petit et dans lesquels tous nos parents, grands-parents baignent, donc c'est bien inscrit. C'est clair. Que forcément, malgré nous, on veut faire des choses mal ou plus ou moins bien. Et quand quelqu'un pointe du doigt le fait qu'on s'est trompé sur telle chose, elle n'est pas en train de s'attaquer à notre personne, mais juste à... un moment, une idée, une revendication, un mode d'action qui, en fait, pose problème pour diverses raisons. Et c'est quelque chose qui est difficile à faire. Hein. Mais je pense que vraiment laisser son ego de côté, ou en tout cas le plus possible, c'est quand même le mieux dans la mesure où, alors, quand ces critiques surgissent, on est plus apte à dire « D'accord, est-ce que potentiellement tu peux m'expliquer? Est-ce qu'on peut en parler déjà pour comprendre, pour trouver des solutions ?» pour réparer, s'il y a besoin de réparation selon le contexte, etc. Donc je pense être alerte, être à l'écoute, ne pas avoir trop d'ego et surtout se dire que ce n'est pas une question individuelle, mais une question toujours collective. S'il y a quelqu'un dans une session ou une organisation qui commet une erreur, moi je pense qu'il faut le prendre comme quelque chose de collectif parce que ça peut arriver à n'importe qui et qu'il faut réfléchir ensemble à comment on fait ça se reproduit, comment on fait pour l'arranger, comment on fait pour réparer, etc.
Ouais, c'est clair. Et puis il y a aussi, c'est un peu ce que dit Roxane Gay dans son livre Bad Feminist, il faut quand même déjà accepter la critique qui est fondamentale. Il faut accepter de critiquer un mouvement. Il n'y a pas de mal à ça. Au contraire, ça ne peut que faire avancer les choses. Et puis aussi, il faut être un peu indulgent et indulgente avec soi-même et de se dire bah, on n'est pas parfaite, on ne sera pas les perfect feminists. Et à l'inverse, on a le droit de temps en temps de ne pas être toujours en cohérence peut-être avec certaines choses. Comme tu dis, on est tellement construits et construites socialement par ce qui nous entoure, par des millénaires, des siècles de sociabilisation telle qu'on l'a apprise et telle qu'on nous l'a... On l'a fait subir, qu'effectivement, ça prend du temps de déconstruire tout ça. Mais ouais, c'est bien de... En tout cas, ça peut, je pense, dissuader un certain nombre de personnes de se dire « Ah ouais, mais les milieux militants, c'est chouette, mais c'est vrai que ça peut être épuisant, ça peut être parfois violent, compliqué, il y a des rapports interpersonnels à gérer, etc. » Mais c'est bien d'entendre aussi ce son de cloche qui est « Bah ouais, bah, c'est ça, en fait, parce que c'est la vraie vie et que ça fait partie aussi du militantisme et que c'est pas pour autant qu'il faut tout jeter, mais au contraire, il faut aller dans un sens où les choses s'améliorent et surtout ne pas baisser les bras.
Je pense qu'en tout cas, il faut pas rentrer dans le militantisme en disant c'est tout rose, c'est tout joli, c'est tout facile et on va juste être ensemble pour s'attaquer... au monde extérieur méchant. Au contraire, c'est la vraie vie. Il y a encore comme tu dis, des rapports interpersonnels et qui jouent beaucoup en vrai. Il y a des rapports de domination, il y a des logiques de pouvoir parfois, même souvent. Et que oui, parfois, il faut batailler, même à l'intérieur de son organisation et même avec des camarades, il faut batailler parce qu'on n'est pas tous d'accord sur les mêmes choses, sur les mêmes modes d'action, sur les mêmes... stratégie ou analyse politique, et on n'est pas tous au même niveau de construction ou déconstruction, et parfois c'est difficile et parfois c'est épuisant, et je pense que parfois c'est aussi compréhensible qu'il y ait des personnes qui lâchent et qui quittent certains orgas parce qu'elles ont fatigué de batailler dans leur propre organisation. Mais malheureusement, à l'heure actuelle, je n'ai jamais rencontré de groupe qui soit 100% parfait, que ce soit 100% déconstruit, que ce soit 100% utopique, en quelque sorte, ça n'existe pas. En tout cas, je n'en ai pas rencontré. Donc, je pense qu'il faut aussi accepter ça, mais de manière juste réaliste, se dire, bah oui, c'est comme ça, alors comment on fait de manière collective pour essayer de l'arranger le plus vite possible et le mieux possible.
Tout à fait. Irénée, je crois que nous sommes arrivés au bout de cet entretien, si ça te convient. Je ne veux pas non plus te retarder parce que je sais que tu as des journées très chargées. Il faut aller militer, précisément. Où est-ce qu'on peut te retrouver pour suivre un peu tes activités ?
Alors, moi, on peut me retrouver sur Instagram, évidemment. Et sinon, la meilleure manière de me retrouver, c'est d'aller à des assemblées, d'aller à manifestations, d'aller à rassemblements ou en général... j'y suis en général au rendez-vous. Donc, pour me retrouver, le plus facile, c'est de s'engager.
Très bien. Est-ce que tu peux nous rappeler les dates de la grande rencontre de la coordination féministe, s'il te plaît ?
Alors, à Mont-de-Marsan. C'est en juillet, c'est je crois du 12 au 16.
Ouais, c'est mi-juillet, c'est ça. Ouais.
Pour y accéder, il faut faire partie d'un collectif féministe. On ne peut pas y aller de titre individuel. Et je crois que les inscriptions, c'est jusqu'au 2 juillet. Donc, je ne sais pas si le podcast sera déjà sorti.
Pas sûr.
Voilà, je ne sais pas si c'est très...
pertinent de leur... Ouais. Bon, en tout cas, c'est bon de savoir qu'il y a une coordination féministe et qu'il y a ces rencontres qui sont organisées annuellement.
Oui, annuellement, depuis 3 ans, je crois.
Ok, super. Bah, merci beaucoup. J'espère que cet entretien t'a plu. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Merci d'avoir partagé tes très riches réflexions.
merci à toi, Léa.
Celles et ceux qui nous écoutent. À bientôt pour un nouvel épisode de Popol Talk. Popol Talks, le podcast politique qui donne la parole aux femmes engagées.